à 12 400 millions d'euros contre 3,3 milliards prévus en 2006. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là. Si la solution des robots n'est pas retenue par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le plan B nécessitera un délai supplémentaire d'un an et une rallonge de 400 millions d'euros. Le recours à cette solution alternative reste néanmoins faible selon EDF. L'ASN confirme avoir été consultée avant que l'entreprise ne prenne sa décision, mais elle devra fournir un dossier réglementaire aux gendarmes du nucléaire et des essais seront réalisés.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur Radio G. Chaque jour du lundi au jeudi, c'est votre rendez-vous des actualités culturelles et locales. Aujourd'hui, mercredi, je reçois un auteur, Victor Deuil, qui a écrit le livre « Merci maman d'avoir fait de moi un loser ». Vous l'avez peut-être déjà croisé, ce livre, dans les librairies angevines. C'est un auteur de la région et c'est un texte dont on va parler ensemble. Son parcours, comment est née cette idée, de quoi ça parle, c'est le sujet de cette émission aujourd'hui. Et pour débuter, pour changer, on va écouter un morceau de musique. C'est Discipline de Orelsan, j'avais envie d'un peu d'énergie pour débuter. Ici Annelie derrière le micro et on est ensemble jusqu'à 18h50. A tout de suite.
Discipline. Discipline. J'arrive comme pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-da-pa. Devine qui vient de sortir l'album de l'année. J'ai passé 2018 en vol plané. J'suis genre de loser qui fait que de gagner. Hey, les gamins finis de jouer, je suis pour confisquer la play. Trop de porno, on est déséquilibré. Faut que les meufs en maths plus pour équilibrer. Hey, j'ai un pote qui passe son temps à me gratter. Ce bâtard partagerait pas sa 4G. Il me fait du chantage en disant que j'ai changé. Grâce à lui, j'ai de l'inspi, merci de me faire chanter. La 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 la. Si ton pote est sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. J'arrive sur scène comme oh. Pourquoi je prends la grosse tête comme ça? Discipline. 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 De pute, tu comprends pas que je suis triste. Ma cervelle dans les airs, c'est un feu d'artifice. J'étais un sale geek avant que le mot existe. Quand tu peux pas rentrer, même quand t'es sur la liste. Difficile de se rappeler qu'il y a deux manières de flamber. Quand ma bite fait tout pour m'empêcher de penser. J'aurais pu pour me planquer, maintenant je rêve de flamber. Amis rappeurs français, vous allez pas me manquer. Comme envie d'éclater un type au hasard. Envie d'insulter un journaliste trop bavard. Débarquer tard le soir devant leur paftar. À l'hôpital à cause d'une star, mais que oui, je bâtard.
Que du bonheur.
Je vais peut-être finir mon verre, ou peut-être que c'est le contraire. C'est lui qui va me finir, je vais peut-être finir par terre. Je suis ni gros ni ton frère, restez poli, faut le faire, faut de la discipline.
Discipline. Discipline. Discipline.
Un ancien fan m'a dit t'es trop commercial. J'ai dit je sais pas ce que ça veut dire trop commercial. Il a dit quand tout le monde aime bien c'est trop commercial. J'ai dit tu fais quoi dans la vie, il a dit je suis commercial. Faut que je me fasse violence. Ces tweetos de merde ont trop d'arrogance. Les vieilles connaissances prennent vite la confiance. Ça va dégager, c'est bientôt la brocante.
Je reprends la discipline.
Je reviens comme une ex qui t'a fait morfler. L'appel que t'aurais pas dû décrocher. Fermez vos gueules, j'ai gagné mes procès. Mes textes étaient mieux quand je les posais. Tout le monde est cool avec moi mais c'est stratégique. Je pensais pas que me faire sucer deviendrait pathétique. Avant de raconter toutes les meufs sont maléfiques. Arrête de les rencontrer dans les carrés VIP. Carrés VIP, barrez-y, allez-y, je vais me barrer vite.
Je rentre ou je vais partir en couille, faut de la discipline.
Trop de putain de leggings, trop de putain de leggings. J'essaie d'être fidèle mais y'a trop de putain de leggings. Redoute le jour où je perds ma rigueur. Je vais démonter ta pétasse, ça va rentrer dans un kinder.
C'est méchant.
Rentrer dans un kinder,
ça veut rien dire.
Ça sera le nom du single.
N'importe quoi.
Avant jouer des singles.
Ok.
Bien joué, ma petite gueule.
Et ce soir, dans l'oreille curieuse, je vous le disais, je reçois un auteur, Victor Deuil. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Amélie.
Merci beaucoup d'être là. Alors, je vous reçois pour le livre dont le titre est « Merci maman d'avoir fait de moi un loser ».
C'est ça.
Qui est sorti aux éditions Les Presses Littéraires, au début de l'été, c'est ça ?
Absolument. En fait, il est sorti le 28 juin, si je ne m'abuse. Donc, c'est ça, ouais, tout début de l'été.
Et comme il n'y avait pas d'émission l'été, c'est maintenant qu'on se reçoit à la rentrée.
Absolument, c'est ça.
Alors vous êtes un auteur angevin, en tout cas de la région, mais vous ne vous destiniez pas forcément à être auteur, à écrire un livre.
Pas du tout en fait, ouais, c'est ce que j'explique dans le livre, j'ai aucun passé littéraire, j'ai pas de formation d'écriture, etc. Et je souhaitais voilà, m'exprimer sur un support, certains le font via des podcasts, d'autres des vidéos, etc. Mais moi je me sentais plus à l'aise avec l'écriture, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un bouquin.
Et ça part vraiment de votre propre expérience, de l'articulation entre les études, le monde professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours et de comment il nourrit ce livre-là ?
Ouais, donc moi j'ai suivi un parcours classique entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac ES et après, comme beaucoup, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Souvent là, c'est la grosse question. Les parents, les potes nous mettent un peu la pression pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, parce que on a l'impression que on choisit le tournant de notre vie se joue après le lycée, et forcément souvent c'est beaucoup de pression et voilà, on a l'impression qu'il faut pas se tromper, etc. Donc moi, j'étais passionné par le sport, donc un peu par défaut, pour être honnête, j'ai choisi une formation voilà, liée au sport sur Angers, Gabriel Fepsa. Donc j'ai fait une licence en management du sport. Et après ma licence, voilà, je me suis toujours bien débrouillé en cours, mais j'en avais un peu marre. Et du coup, j'ai fait une année de césure d'un an où je suis parti en Australie et en Asie du Sud-Est. Et voilà, ça m'a fait découvrir plein d'autres choses. Et quand je suis revenu, j'ai repris mes études, toujours en lien avec le sport, dans le management et dans le marketing. Et donc voilà, j'ai eu ce qu'on appelle comme un master. Donc j'ai un bac plus 5 en gros, mais pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, dans la mesure où pour moi, ce n'était pas du tout une finalité. Et justement, en fait, c'est en arrivant tout à la fin de mon parcours que j'ai réalisé que j'avais rien accompli, entre guillemets, hors du cadre scolaire. Et voilà, je me suis lancé un peu ce défi de me dire qu'est-ce que je peux faire qui sort du cadre scolaire et qui soit vraiment voilà, 100% personnel et quelque chose voilà, que je puisse partager et exprimer avec les autres. Et du coup, le projet de livre est venu au fur et à mesure en fait. De base, j'avais pas du tout l'intention de faire un livre. Et j'ai commencé voilà, à réfléchir à mon parcours, à mes expériences. Et je me suis dit, il y a énormément d'élèves ou de jeunes qui sont comme moi, qui savent pas exactement quoi faire, etc. Et je voulais justement partager mon expérience pour les rassurer et pour leur dire que c'est normal de pas savoir tout de suite tout ce qu'on veut faire, et qu'on a le droit de se tromper, de recommencer, d'échouer, etc. Et voilà, donc au fur et à mesure, le livre s'est construit comme ça, et d'où l'intérêt après de le partager avec les autres, en fait.
Donc ouais, dans ce que vous racontez, en fait, les différentes étapes de la vie scolaire, la vie universitaire, des différentes choses, de l'orientation, des choix, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans ce récit de ne pas être sûre, d'être un peu perdu. Est-ce que ça a été évident dans cette idée de faire un projet en dehors du cadre scolaire, entre guillemets, de partir de votre expérience à vous et de cette expérience-là du choix ? Parce que si c'est... Enfin, ça aurait pu être un autre projet, ça aurait pu être autre chose.
Complètement. Mais en fait, moi, l'intérêt, c'était de partager quelque chose que j'avais vécu. Parce que, enfin, il y a plein de livres de fiction, etc. Et moi, le but, c'était de me dire de mon expérience, de ce que moi, je connais, qu'est-ce que je peux apporter aux autres avec, voilà, ma modeste expérience et le fait que, voilà, j'avais pas encore vécu grand chose non plus. Mais mon obsession, entre guillemets, c'était via mon expérience de me dire qu'est-ce que voilà, je peux apporter. Et de base, en fait, le livre, je voulais le faire que pour moi. me faire une copie et me dire, bah, au moins dans ma vie, je sais pas ce que je vais faire d'autre, mais au moins j'aurais fait un livre. Et quand je suis arrivé à la fin du cheminement, j'ai fait, bah, c'est trop bête de ne pas l'envoyer à des maisons d'édition. Du coup, bah, je l'ai fait et j'ai eu la chance qu'il y ait une maison qui m'est contacté et puis qui m'a dit, bah, nous, le projet nous plaît et on est chaud pour y aller, quoi.
On va parler un peu plus après de comment s'est passée l'écriture, comment c'est sorti. Je vais lire en fait le début de la quatrième couverture, parce qu'il y a sans doute des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore lu ce livre-là. Donc merci maman d'avoir fait de moi un loser. Donc, le livre que vous vous apprêtez à ouvrir n'a pas pour objectif de se distinguer par son style d'écriture et encore moins par son récit exaltant. Je suis un homme ordinaire, avec un doux rêve, celui de penser que ce livre peut amener à réfléchir sur notre existence et savoir si celle-ci correspond à nos aspirations profondes. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui, comme moi, cherchent à donner un sens à leur existence. Je ne parle pas d'un destin extraordinaire, j'évoque simplement l'opportunité que nous avons de mener une vie où nos envies, nos désirs et nos rêves sont les principaux moteurs. Ensuite, il y a beaucoup de questions. Vous parlez de, est-ce qu'on a déjà pris le temps de se questionner sur notre vie, d'essayer de nous rappeler comment on est arrivé à là où nous en sommes. Et vous dites, mon livre n'est pas fait pour apporter des réponses, mais pour poser des questions. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous le qualifiez, ce livre-là. Est-ce que c'est un récit de vie? Est-ce que c'est un livre qui va vers le développement? Est-ce que c'est un essai ou autre chose encore?
Enfin, même moi, j'aurais du mal à le qualifier. Après, voilà, beaucoup maintenant le mettre dans le développement personnel parce que c'est la grosse mode comme en ce moment. Coaching, le bien-être, voilà, essayer de savoir qui nous sommes.
Et puis quand on est libraire, il faut trouver une case, une petite étagère où le mettre.
Exactement, et puis en plus, eux, voilà, surfent sur les vagues des tendances et tout, donc forcément, ça fait vendre et puis ça attire. Donc, mais là, le but, enfin, dire que c'est comme une expérience de vie, c'est beaucoup dire parce que, voilà, justement, j'ai pas la prétention, entre guillemets, d'apporter des réponses dans le sens où je partage simplement un point de vue. Et je ne suis pas là à dire c'est comme ça que ça se passe ou c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment juste mon expérience à moi et que d'essayer voilà, de, d'apporter quelque chose de, aux jeunes et surtout de les rassurer en disant que vous avez le temps, quoi.
C'est plus une discussion presque exactement, qu'un livre de méthode.
C'est ce que j'expliquais. Enfin, pour moi, le livre doit juste servir de support et de point de base devant une discussion beaucoup plus large avec les proches, la famille, les parents, etc., pour essayer de comprendre en fait les aspirations et les rêves de chacun.
Et forcément, Victor, moi, quand j'ai découvert votre livre, ce qui m'a frappé, ce qui frappe tout le monde, et je pense qu'il y a personne qui vous font ce retour-là, c'est le titre. Merci, maman, d'avoir fait de moi un loser. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là?
J'ai choisi le titre.
Il est un peu brusque.
Exactement, bah, c'était totalement le but. Comme j'expliquais, maintenant, il y a l'offre dans tous les secteurs qui est hyper... hyper forte et même voilà dans les livres il faut réussir à se différencier et forcément merci maman d'avoir fait de moi comme un loser, ça parle parce que ça atteint tout de suite les mamans et forcément le but c'était d'interpeller d'abord et puis de questionner surtout après. Donc là voilà, merci maman d'avoir fait de moi comme un loser, c'est vraiment la question de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé,
qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Ironique ou de la vraie fierté? Comment vous le...
Non, non, du tout. Enfin, c'est vraiment de l'ironie. Et enfin, le but, c'était juste de donner un titre un peu coup de poing pour amener l'interrogation. Mais après, le contenu du livre va beaucoup plus loin que ça. Et le titre ne représente pas totalement, loin de là, le contenu du livre.
Ouais, il y a encore plein de choses qu'on va discuter exactement ensemble. Je vous propose d'écouter un autre titre. C'est « Do Your Thing » de Moondog. Donc fais tes choses, faites votre chose.
That's not the way to win all of these.
Écoutez l'oreille curieuse sur Radio G, et ce soir dans la quotidienne culturelle, nous recevons un auteur, Victor Deuil, pour le livre « Merci maman d'avoir fait de moi un loser ». Donc un livre qui part de votre expérience, Victor, mais pour s'adresser à tout un tas de personnes à qui le veut bien, qui veut bien partager le récit.
Absolument.
On parlait du titre juste avant. Ce titre, il renvoie, j'ai l'impression aussi, à tout ce qui nous fait... à tous les déterminismes un peu qui font ce qu'on est, même en dehors de nos goûts. Dans le livre, il y a vraiment la question de trouver une certaine liberté, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça ?
Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, dans le sens où on a l'impression que quand on sort de l'école avec un grand E, on doit tout de suite trouver, en fait, et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et le bouquin, c'est justement de se dire, voilà, prenez votre temps et surtout, prenez le temps d'essayer des choses. Parce que voilà, comme on a tous connu, celui qui, dès 6 ans, voulait être pompier et qui, 25 ans après, est pompier. Mais ça, c'est pas la majorité. Beaucoup, voilà, sont comme moi encore et se questionnent sur leur avenir, sur leur passion, sur ce qu'ils veulent faire, quel sens donner à leur vie. Et justement, je pense que l'angle différent de mon livre, c'est de pas, voilà, apporter une vérité absolue. Et surtout, voilà, de rassurer et de dire, vous avez le temps d'essayer, vous avez le temps d'échouer, mais surtout, voilà, faites les choses pour vous et faites ce que vous aimez profondément, quoi. C'est surtout ça.
Et vous parlez beaucoup de l'éducation, de ce qui nous a fait quand on était enfant, adolescent, des études supérieures aussi. Comment est-ce que ça influe ? Comment est-ce que ça se fait que des fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire ?
On ne sait pas ce qu'on veut faire souvent parce que déjà, il n'y a pas de... Pour certains, c'est évident parce que voilà, il y a une passion qui les anime et d'autres qui sont tiraillés par leurs envies personnelles et les attentes aussi de la famille, des amis, etc. Donc, il y a aussi toute cette pression-là, cette pression environnante. Et malheureusement, quelquefois, voire souvent, ces pressions extérieures qui vont guider en fait nos choix d'études, nos choix de métier, voire parfois... Nos choix de vie et notre style de vie. Donc, et après, j'explique encore dans le livre que c'est extrêmement dur de justement se détacher de tout ça parce qu'on s'habitue à voilà, se décharger des choses à l'école. Voilà.
À répondre aux attentes.
Exactement, on suit un parcours qui n'est pas tout tracé mais presque pour nous et justement on se met un peu en pilote automatique. Et au bout d'un moment, quand on se réveille, on voit que qu'il est trop tard et que, justement, on a trop suivi ses attentes extérieures, l'école, les parents, les amis, etc. Et que, au final, on n'a jamais fait les choses pour nous-mêmes. Et là, justement, le but du livre, c'est de remettre au centre nos attentes, nos envies, etc. Et comme j'explique, il y a une partie du livre qui s'appelle « Comment trouver sa passion » et c'est extrêmement dur dans le sens où ça ne tombe pas dessus le matin, quoi. C'est un travail pour certains de longue haleine, fait d'essais, d'échecs, mais voilà, il faut jamais, enfin je pense, il faut jamais être fataliste et se dire ma vie c'est ça maintenant et ça sera ça pour le reste de ma vie. Je pense que il existe tellement d'opportunités aujourd'hui qu'on peut pas, surtout quand on a 20, 25, 30 ans, on peut pas se dire ma vie ce sera ça et je peux rien y faire. On est vraiment acteur et c'est à nous de prendre les décisions, d'essayer de nous exposer, de sortir de notre zone de confort pour trouver, pour ceux qui savent pas encore ce que c'est leur passion, ce qu'ils veulent faire et surtout la façon dont ils veulent mener leur vie.
Et entre savoir ce qu'on veut ou réfléchir à trouver un peu quelle est notre direction, toutes ces attentes sociales où des fois ça peut être en opposition ou simplement on peut être inquiet ou inquiète, entre le contexte qu'on a pu vivre, quelles études, la famille, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui se mélangent dans ce que vous racontez. Quelle est la place de la responsabilité de chacun ou chacune d'après vous? Est-ce que c'est juste un choix? Est-ce qu'il suffit d'en prendre conscience?
Après, non, mais comme je dis, c'est beaucoup plus facile de dire souvent qu'à faire, parce que, c'est ce que j'explique, il y en a qui sont mariés avec des enfants, qui ont des emprunts, etc. Et pour cela, c'est beaucoup plus compliqué de se dire du jour au lendemain, je veux devenir chanteur ou danseur. Forcément, exactement.
J'appelle mon banquier.
Faut être aussi réaliste et puis tout le monde, ne veut pas non plus faire de sa passion son métier.
Et on peut avoir un prêt, une maison et être très heureux.
Et exactement, ce que j'explique, le but c'est de faire comprendre qu'il n'y a pas un style de vie et que il y en a qui sont très très contents avec un job classique entre guillemets, mais qui peuvent voir leurs enfants tous les jours aller au match du gamin le week-end etc. Donc le but c'est pas de dire il y a un style de vie qui convient, c'est vraiment chacun de trouver l'équilibre et ce qui lui ce que cette personne-là trouve dans chaque activité pour qu'elle soit heureuse, en fait.
Moi, je trouve ça intéressant de partir de votre propre récit, de votre propre regard sur tout ça. Mais est-ce que, en tant qu'auteur, est-ce que c'est pas délicat de faire de sa propre expérience un texte qu'on va mettre en partage, de se positionner en expert de sa vie, mais un petit peu
C'était le but aussi, clairement, parce que moi, le livre aussi, c'était de m'exposer, de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un de très discret, qui garde les choses pour moi, et ça, c'était un vrai challenge de me dire, je vais exposer mes doutes, je vais dire que je suis un peu perdu dans ma vie. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile, parce qu'on sait qu'on va être jugé, parce que les potes
parce
qui
que
ont
c'est
suivi...
pas la parole majoritaire.
Exactement, les potes qui ont suivi le même parcours, ils ont déjà comme une situation peut-être beaucoup plus stable que la nôtre, et forcément on se pose des questions, etc. Et on se dit, mais comment ils vont réagir quand moi je dis que je suis perdu, que je sais pas quoi faire. Et il faut aussi être humble et se dire, j'ose de m'exposer, j'ose dire que je sais pas forcément ce que je veux faire encore. Et laisser le jugement des autres, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, on sera toujours jugé. Donc là, c'était aussi la façon de m'exposer, puis de me dire, tant pis, je partage aussi ma vérité. Et je voulais que ce bouquin aussi, il me représente un maximum. Donc là, l'intérêt, c'était pas de cacher ou de faire comme si je vivais une vie parfaite où tout était magnifiquement organisé. C'était pas du tout l'enjeu du livre.
Et vers la fin du livre, vous parlez aussi de l'idée d'alternatif, avec un grand A. Qu'est-ce que vous y mettez, vous ?
En fait, le concept d'alternatif, c'est toujours de se dire... il existe une solution différente. Comme j'explique, c'est beaucoup plus facile de changer à 20 ans quand on n'a pas de prêt, de famille, etc. Qu'à 50 ans. Mais je suis convaincu qu'il y a toujours une opportunité de faire quelque chose de différent. Et forcément, ça peut être juste de démarrer une nouvelle activité, de voyager plus, etc. Et comme j'explique, faut pas avoir dans l'idée que pour être heureux, faut forcément tout chambouler dans sa vie. Ça peut se faire par des choses toutes simples, parce que certaines personnes aiment la sécurité, aiment avoir un cadre précis qui les rassure. Et justement, le bonheur pour eux, ça peut être, comme je disais, de partir plus en vacances, de voir plus leurs enfants, etc. Donc c'est vraiment chacun d'être capable de savoir ce qui le rend heureux. Et voilà, pas du tout d'avoir la prétention d'exposer un style de vie en particulier, c'est pas du tout ça, pas du tout ça l'objet.
Tout le temps, merci maman d'avoir fait de moi un loser, c'est plus offrir une diversité de possibles pour tout le monde.
Exactement, en fait. Et c'est vraiment chacun de savoir dans justement tout ce qui existe aujourd'hui, via les réseaux sociaux, comme Internet, etc., se trouver ce qui nous ressemble le mieux et ce qui nous apporte en fait le plus de joie comme au quotidien.
Ça, c'est un beau projet. On va écouter, on écoute plein de musique aujourd'hui, mais je pense que ça répond un peu au livre. En tout cas, celle-ci, c'est Baltringue de Damso. Et on se retrouve juste après pour parler d'écriture.
La vie que t'as choisi n'est peut-être pas la bonne. Non. Tu vis par principe, tu ris mais t'es triste. Tu jouis son plaisir, elle aime parce qu'elle insiste. La vie que t'as choisi n'est peut-être pas la bonne. C'est ni l'enfer ni le paradis. Car dans tous les cas, tu meurs à la fin. Écoute de fond, pas le prix du parapluie. La misère ne justifie pas la fin. T'es gay en secret, tu ne peux pas le dire. Tu te soulages en baisant des hétéros. C'est de quoi t'es fait, tu ne peux pas le fuir. Les nuages n'écoutent pas la météo. T'as plusieurs rêves, mais pas d'objectif. Et c'est ça qui fait que t'es toujours au même endroit. T'as fini l'école, t'as fini le NIF. Mais t'as pas de boulot, vie chez tes remparts. Tu fais rien, pris quasi tous les jours. Tu te mens en disant que tu vas tout niquer. Un athée qui tape quasi tous les jours aura toujours plus d'opportunités. Le monde est fait de gens qui font les choses. Et ceux qui disent qu'ils auraient pu le faire, auraient dû le faire, vont sûrement le faire. Et ceux qui sont juste en train de faire les choses. Aujourd'hui t'es tout mais demain t'es rien. Donc pense à demain car ce n'est pas si loin. Faut croire en Dieu mais surtout croire en soi. Car Dieu la mort il ne la connaît pas. Sans emploi du temps tu n'as pas d'emploi. Fais de l'argent ne gaspille pas ta voix. Voiture sur les réseaux des businessmen. Dans la vraie vie c'est métrobus Trump. T'es grosse et grossière. Tu fais ta bombe mais t'oublies que demain tu seras mère aussi. Tu fais chier les jeunes quand tu fais ta ronde. Mais t'oublies que demain tu seras père aussi. Négro je ne t'ai pas oublié. Non, 2008 station Montgomery. J'avais embrouillé t'as pris la fuite. 2018 tu me demandes en pute, pute. Encore les mêmes fils de putain qui se ramènent. Quand tout va mieux, quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale. Encore les mêmes fils de putain qui se ramènent. Quand ce n'est plus noir. Baltringue. Tu te fuis toi-même. Baltringue. 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 Tu ne sais qu'encaisser devant l'échec par en plus pressé. Mademoiselle veut se faire soulever, recycler en vulgaire déchet. Crains pas les échelons si t'as le vertige, le succès n'aime pas trop les bluffés. Toujours du mal à me faire apprécier, du sale j'en fais sans rien respecter. Bastos logé dans le thorax, négro n'avait qu'à pas faire le show. Violence des mots, violence des flots, mais en silence sans faire d'écho. Tant d'impuissance face au gloss, c'est qu'à presser. Bang. Dans les vapeurs, j'ai tiré sur du crack pour libérer Trace Davis. J'étais pas bien, comme quand tu te coinces la bite dans fermeture jeans, le vice. Je te mets du fond de mes couilles, mon cœur noir à autre chose est passé. Y'avait déjà du sang sur la douille, et ça veut faire croire qu'il est blessé. Elle va voir un pote qui l'a déjà niqué en me disant de ne pas m'inquiéter. Dis-moi la vérité, rien que la vérité, je veux être au courant pour rassurer. Encore les mêmes grosses putains qui se ramènent. Quand tout va mieux, quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale. Encore les mêmes grosses putains qui se ramènent. Quand ce n'est plus noir, Baltringue. Baltringue, Baltringue, Baltringue. Tu fuis la vie, tu fuis la mort, tu te fuis toi-même.
quand ce n'est plus noir, quand ce n'est plus sale.
Ce soir dans l'oreille curieuse, je vous propose une programmation musicale avec des mots vulgaires, mais c'est pas grave, elle est contextuelle. On est toujours sur le 101.5 de Radio G et ce soir je reçois Victor Deuil pour l'écriture du livre « Merci maman d'avoir fait de moi un loser » que vous trouvez dès à présent et depuis quelques temps en librairie. C'est aux éditions Les Presses Littéraires. Victor en a parlé un petit peu des idées qu'il y a dans ce livre, du parcours, du récit. J'aimerais aussi qu'on parle du processus d'écriture. En fait, donc vous nous disiez en début d'émission, c'était pas du tout quelque chose que vous imaginiez au départ d'écrire un livre. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous avez ressenti le syndrome de l'imposteur déjà pour commencer ?
Ouais, mais complètement. Et puis même encore quand on m'en parle, moi je dis je suis pas auteur.
Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ?
Exactement, j'ai pas le sentiment d'être écrivain et enfin j'ai aussi conscience de la chance que j'ai de me dire qu'il y a des personnes qui écrivent beaucoup mieux que moi et qui sont pas publiées alors que moi, enfin j'ai eu la chance et l'opportunité voilà d'avoir d'être publié par un éditeur, donc je prends aussi conscience de ça. Mais après ouais, forcément quand je commence à écrire le livre, il y a cette sensation et plusieurs fois je me suis remis en question en me disant mais quelle légitimité j'ai à écrire un bouquin. Et le processus il s'est vraiment étalé sur une année parce qu'il y a des périodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois où j'ai rien écrit du tout et je me disais mais enfin je suis qui pour écrire ça et qui s'intéresse de lire ma petite vie entre guillemets. Et après là l'écriture, le processus c'était assez simple, je suis resté dans ce que je connaissais, c'est-à-dire l'école, et je suis resté voilà sur un plan très basique qui est le plan du livre, grand 1, grand 2, etc. aussi pour structurer la chose. Et voilà, j'ai trouvé tous mes grands points, les grandes thématiques du bouquin. Et après, j'ai rempli chaque volet par mon expérience de vie, mon ressenti, mes expériences, mes lectures. Mais c'est vrai que le processus a pris un an entre l'idée de base la publication finale du livre, exactement.
Le point final. Donc cette légitimité, c'était peut-être celle du partage, mais qu'est-ce qui vous a aidé à aller jusqu'au bout du projet, jusqu'au bout de ce livre, au-delà de ces moments de doute, de pas d'écriture
De me dire que j'avais pas le choix, en fait. Et comme j'explique dans le livre, je suis quelqu'un qui abandonnait facilement, c'est-à-dire dès qu'il y avait une difficulté ou un problème, je me disais « bon bah c'est bon, c'est pas pour moi ». Parce que comme j'explique, on a tous des milliers d'idées tous les jours, voilà, on s'emballe 1, 2, 3 jours et au bout d'un moment on se dit « mais je vais où quoi ?»
Il faut finir une des choses.
Exactement, il n'y a aucun sens et là je me suis dit « le projet est trop gros pour moi pour que je m'arrête ». Et je voulais me dire « au moins j'aurais fait ça, ce livre-là », et ce qui m'a aidé à me dire, c'était le fait que voilà, c'était quelque chose d'important, et que si j'abandonnais maintenant, j'abandonnerais aussi pour tous les autres trucs qui viendront après. Donc là, c'était vraiment un point d'honneur pour moi à le finir, malgré justement cette période de questionnement et de doute que j'ai pu avoir tout au long du processus.
Et vous nous disiez, donc d'abord c'était un projet, une idée pour vous, ensuite vous vous êtes dit ça peut être intéressant de le partager avec d'autres personnes qui peut-être sont perdues, de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation. Comment s'est passée la rencontre avec votre éditeur ?
Tout simplement en fait, comme j'expliquais, maintenant comme on a l'avantage que... avec Internet et les mails, ça allait très très vite. Donc là, j'ai envoyé le manuscrit à une trentaine de maisons, donc les trois quarts par mail. Et ça prenait entre 2 et 6 mois pour avoir une
réponse.
Exactement. Et j'ai eu la chance qu'à la deuxième réponse, l'éditeur m'envoie un mail en me disant « nous, le projet nous plaît et on est prêt à le publier ». Et là, l'avantage, c'est qu'eux n'ont rien changé au texte. Ils m'ont dit, nous, le but, c'est vraiment de retranscrire à l'identique votre pensée, vos mots, vos propos. Et voilà, vous nous envoyez le texte, vous le rebossez si besoin, et nous, on le met en page. Donc, eux, vraiment, se déchargent de ça, dans le sens où il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de corrections, etc. Nous, on est... en charge de tout, et eux s'occupent juste en fait...
De la diffusion.
Exactement, et de la mise en page pour qu'ils soient aux normes d'un livre classique, mais voilà, ils sont juste là pour la mise en page et la diffusion après du livre.
Et ça permet de le partager avec plein de personnes.
Exactement, c'était le but, ouais.
Là, on voit qu'on est peut-être pas à la fin, mais en tout cas à l'aboutissement d'une grande aventure, d'un projet que vous avez mené jusqu'au bout, et c'était ça l'idée du projet. Qu'est-ce que ça vous a appris, l'écriture, l'édition, le partage de ce livre ?
Ça m'a appris surtout que, voilà, surtout sur moi, de me dire, enfin, je suis capable aussi de réaliser des projets qui sortent du cadre scolaire et je peux faire autre chose aussi. Et forcément, on apprend beaucoup sur soi, dans le sens où on se dit, ça, je ne l'ai jamais dit à personne avant, je ne l'ai jamais explicité, etc. Et même pour la vie de tous les jours, après, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de voilà, pas toujours prévoir à l'avance ce qu'on va dire et d'être beaucoup plus, pas vrai entre guillemets, mais plus authentique et plus ouvert avec, avec les gens. Et c'est surtout ça, la leçon principale que moi, je retire de tout ce projet-là.
Donc dans le livre, vous avez mis des choses que vous ne disiez pas forcément à vos proches ?
Oui, oui, absolument. Surtout, voilà, quand je parle de ma maman que
qui,
je déglingue
pas
un peu entre guillemets dans le titre et qui m'a appelé presque... presque en pleurs en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce titre-là, j'ai raté ton éducation, etc. Et après, heureusement, je lui ai fait lire le bouquin, elle a tout de suite compris que c'était pas ça. Mais quand je dis voilà, comme à ma maman que je l'aime et que je la félicite aussi de toute l'éducation qu'elle m'a apportée, c'est pas du tout quelque chose que je dirais en règle générale et que je pouvais exprimer entre guillemets que par l'écriture, parce que voilà, naturellement, je suis pas quelqu'un voilà qui m'exprime beaucoup sur les émotions ou les sentiments, et là c'était l'occasion de partager Gab avec elle. Et justement Gab, en finissant le livre, elle a bien vu que voilà Gab, elle avait rien à voir avec l'échec et que c'était pas du tout la
pas
maman
d'un
loser,
pamphlet contre votre maman.
Exactement.
Et quels sont les retours que vous avez pu avoir sur votre texte?
Donc
merci
après,
maman d'avoir fait de moi un loser.
Après, il y a plein de gens, voilà, surtout sur les réseaux sociaux et notamment via comme Instagram, des gens qui étaient hyper inspirés et hyper contents de lire le bouquin. Et même pour moi, après, il s'est principalement diffusé autour voilà, des personnes que je connais autour d'Angers. Mais forcément, il y a d'autres personnes qui l'ont lu, etc. Et voilà, recevoir des messages de personnes disant « ton livre m'a aidé », pour moi, c'est la plus grande des consécrations, dans le sens où je me dis que j'ai eu à un moment donné un impact même minime sur la vie de quelqu'un, et c'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour moi.
Et alors maintenant, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ou d'autres choses ? Est-ce que vous savez un peu mieux ce que vous avez envie de faire ?
Paradoxalement, en fait, l'aventure du livre m'a beaucoup pris pendant un certain temps. Mais on me pose beaucoup la question d'un tome 2. Et comme je dis, moi, sur le tome 1, je me base que sur mon expérience. Et si je devais donner une réponse maintenant, je pense que ça serait le seul livre que je ferais de toute ma vie. Mais... enfin, il
ne
faut jamais
dire
jamais. Exactement. Donc moi, je ne sais, sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, je ne veux pas tricher, entre guillemets, quand j'écrivais le livre. Je ne voulais pas tricher et mettre des choses que je n'avais pas vécues pour faire bien ou justement pour aller dans le sens de la tendance. Et ce projet-là, au-delà de m'avoir aidé sur ce que je voulais faire plus tard, il m'a surtout permis de mieux me connaître et de surtout, voilà... avoir le courage de partager aussi, d'exposer mes failles entre guillemets et mes faiblesses. Et du coup voilà, c'était surtout ça l'enjeu principal du livre.
Et c'est peut-être le conseil qu'on peut donner pour finir.
Ouais,
oui, cherche un petit conseil.
Après,
il
c'est
nous
ça,
reste quelques secondes.
C'était toujours compliqué, mais après le livre, c'est ce que j'ai pu. S'il y a quelque chose à retirer, c'est que chacun voit le bonheur différemment. Et que justement, voilà, pour être heureux, il n'y a pas un style de vie, mais c'est vraiment à chacun de trouver sa voie, voilà, en échouant, en essayant au fur et à mesure, et en grandissant de ses expériences.
Victor, merci beaucoup. Moi, j'ai une ambition pour ce soir, c'est de finir l'émission pas en retard, ce qui est hyper rare, il reste 25 secondes. Je redonne tous les éléments de ce livre que je vous invite à lire. Le titre, c'est « Merci maman d'avoir fait de moi un loser ». Victor Deuil, vous en êtes l'auteur, et c'est aux éditions Les Presses Littéraires. Merci beaucoup d'être venu en parler dans l'oreille curieuse ce soir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je salue toutes les mamans, tous les parents, et je vous invite à nous retrouver demain à l'antenne à 18h10. Et dans 18 minutes, c'est Bande Geek Mafia, le magazine Infoculture. Bonne soirée à tous et à toutes.
storm rocks. Stock laws on corn stocks, and witches and warlocks. Board your doors locked, horrid thoughts just drop. No one a shot, sink box, leave you severed to drop. Clever or not, shock through the trebles and watts. The devil who plot, watch your flesh rot like an apricot. The black widow, push your neck to a hat pillow. Attack rap fellows, backtrack as I stack medals. My letters bleed, more dope than amphetamines. My head in your pedigree, supplying a better means than you've ever seen. I'm dead in cats with a metal axe. Your dental's cracked and you hacked up in Reynolds rack. A dose with insulin, you're listening to blistering. Flows that explode when I unload like nitroglycerin. Lean on to your non-piece, rhyme peaceful disclose. Tearing through your tissue, leaving holes that I can piss through. Blood in my eyes, mortal demons collide. Bleed slaughter, see your tides, angels grieving the cries. Breathing the mind, death's coming, season of blood. It's still the root of all evil, whether dead or alive. Beneath the blood in my eyes, mortal demons collide. Bleed slaughter, see your tides, angels grieving the cries. Breathing the mind, death's coming, season of blood. It's still the root of all evil, whether dead or alive.
Mortal demon, the cold semen and fodder region. Smarter trace and a cease, but calm breathing the feast. The ball breeding, the freaks, the palm reading. Diseases long reaching, tease on top tease. In the restaurants, with dead splines, I spread clumps. Hair drunk, a red rump, dead tons of head heart. Promotion depends in opium dense. Toast in a sense, comatose in a bitch. Starmony with a mark of the beat. Call my team, shout the police. Creep like a dog at the leash. Sleep like a bitch and hey, leave. My mission complete, bitten with fleas. Sick with disease, nutrition of police. Cats with none of it, I blast for the fun of it. Stamps in front of it and pissed in the punishment. Spraying the trade juice, blood stains like grape juice. I'm playing like Beirut, bleed your brain and Jesus.
Blood in my eyes, mortal demons collide. Bleed slaughter, seeing tides, angels screaming the cries. Breathing the mind, death's covered, season of blind. It's still the root of all evil, whether dead or alive. Beneath the blood in my eyes, mortal demons collide. Bleed slaughter, seeing tides, angels screaming the cries. Breathing the mind, death's covered, season of blind. It's still the root of all evil, whether dead or alive.
Another satanic masterpiece by the master of thieves. Leave you disaster, disease, laying in a casket to bleed. It's ludicrous, I hang with street lunatics. My crew sick, stab you with an aluminum tip crucifix. The hell's for my thoughts, transform in stealth form. Mics melt arms like napalm when I brainstorm. Rest in pieces, let me show you who the beast is. Have you begging to Jesus when I blow your brains like cheese whiz? Force of evil, demonic torture your people. Leaking cerebrals, black math, death to cathedrals. Lacerate the devil's masquerade to make you pass away. Slap a blade, decapitate your fade at a rapid rate. Creep through labyrinths with savages, stashing contaminants. Secret manuscripts leaking out of canisters. Storing limbs, the gore begins in crematoriums. It's when historians battle death to the gore.
Charcoal, my Koopa gargoyle. Chopper got a knife like a samurai. I saw it. 25 thoughts on a yacht, all aboard. Running up the trucks, get a bag on Ford. Whip out the knife, fuck, get out the spot. Whip out the fight, dog, pussy nigga die. Two bumper Glock, talk a lot, get shot. Right, let me get in my lay rock, oh my. Hopping in my belly, give me top, why not? Yeah, we got the sticks, they chop. Huddle up, we about to go and blitz the ops. Playing 2/5 on the watch. Get my spot. Niggas can't get my spot. Birds gon' flop. I just had surgery on the lot. White like any middle enough. White. Deuce, deuce, tucked in my crop. Stitch right there in the couch. Punch down a bando house. Don't step down like a mouse. Ooh. I got more water than the cloud.
Water.
Invite your daughter to the house.
Daughter.
I'ma get in there and put the bitch out.
Yeah. I'm a cardboard. Got them hardboard. What is popcorn? Yeah. I'm on top floors. Hey. Bitch, I'm country. Yeah. I mean Tom Sawyer. Man. Black on black, man. Yeah. That is charcoal. I'm a gargoyle. Got them hardboiled. What is popcorn? I'm on top floors. Bitch, I'm country. I mean Tom Sawyer. Black on black, man. That is charcoal.
Scared at all. I just feel kind of. I feel kind of invincible.
I'm not stuck, motherfucker. I'm too ill to chill.
Too dope to cope.
Too lit to quit.
You fucking beat up butter and jeans. You talk shit. My foot kicks your ass.
My fist splits your lip.
My mom shut me up with a tape. Now I can't pay for talking all day.
Fuck cold wait.
I'm fuck sick, so eat my last cupcake.
I love coffee, but not a fuck. When I drink Starbucks, cause Starbucks sucks.
Radio G 101.5 FM.